Laetare, alleluia, quia meruis imotabe, alleluia, resurrexit sicut exit, alleluia, ora
présence sur le COS 106.5.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h à la pendule de présence, c'est le présence midi qui débute dès maintenant. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h au sommaire de cette émission. Tout d'abord, la chronique verte de Benoît Guillard dans quelques instants. Il nous parlera des journées nationales du mouvement chrétien dans le monde rural, le CMR, qui se sont déroulées à Nandax, c'est dans la Loire, à proximité de Roanne. Eh bien, Benoît Guillard y était, il nous en parlera. Nous parlerons également littérature avec la chronique du frère Martin. En ce vendredi, et il nous parlera de la fileuse de verre. Il sera au micro, bien sûr, de Anne-Rose Jankovic. Comme tous les vendredis, la chronique solidaire de Anne Deslois nous amènera à la cité Saint-Pierre, la cité du secours catholique, aujourd'hui, avec son aumônier, avec une proposition de conférences qui vont se dérouler au cours des jours à venir dans la cité Saint-Pierre. Et enfin, Catherine Albrecht, tous les vendredis, nous propose une promenade dans les beaux sentiers pyrénéens, avec aujourd'hui une seconde partie consacrée aux montagnards aguerris. Henri Russel, tout le monde le connaît bien sûr, et ce sera aux alentours de 12h45. Voilà le sommaire de cette émission que nous allons passer ensemble jusqu'à 13h et que je vous propose de débuter en musique avec Jacques Dutronc, Le Petit Jardin.
Il sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce. De grâce, de grâce. monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée.
Jacques Dutronc sur Présence qui nous chantait son petit jardin.
Présence à Cajarc 97.7.
Et comme tous les deux vendredis, voici la chronique verte de Benoît Guillard. Nous allons parler engagement, ruralité, espérance dans le cadre du mouvement CMR. Il nous explique tout ça. Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis loin des Hautes-Pyrénées. J'ai traversé les Pyrénées, le Massif central, pour arriver dans la Loire, un petit village qui s'appelle Nandax. Et j'ai fait ce long déplacement tout simplement pour vivre la Journée nationale et l'Assemblée générale du mouvement chrétien dans le monde rural. Et donc j'ai l'honneur de recevoir à mon micro les deux coprésidents et l'animateur national de ce mouvement. Et j'avais vraiment, chers auditeurs, envie de vous faire connaître, ou connaître encore mieux, le mouvement CMR. Alors nous avions abordé ce mouvement déjà l'année dernière au travers du Festi Rural. Et donc, bien sûr, on reviendra un petit peu sur cet événement qui a été le Festi Rural. Mais bon, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de vous parler vraiment de l'engagement, de la ruralité et de l'espérance avec le mouvement chrétien dans le monde rural, tout en sachant que c'est aussi une nouvelle équipe qui se met en place, et puis dans la dynamique du Festi Rural. D'abord un petit peu de portrait, de connaître, de connaissance. Donc j'ai autour de moi trois personnes. On va commencer par les dames. Donc on a la coprésidente ici présente, Annick Flick. On a Laurent Misando, coprésident. Et on a Antonio Silvera, qui est l'animateur national. Alors tout simplement, est-ce qu'à tour de rôle vous pouvez présenter? On va commencer par les dames, en quelques mots.
Voilà, donc je suis Karine Flick, j'habite en Alsace et je suis engagée au CMR depuis une vingtaine d'années.
Merci Karine. Laurent.
Laurent, j'ai 51 ans et j'habite en frontière Maine-et-Loire dans le rural et je suis professeur des écoles.
Merci Laurent. Antonio.
Alors Antonio Silvera, donc je suis le coordinateur national du CMR et je suis originaire d'un petit village dans le département de la Loire.
Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire à chacun quel est un petit peu votre lien avec le monde rural et pourquoi vous avez accepté aujourd'hui cette mission de coprésidence ou de coordinateur national du mouvement, Karine?
Alors, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis au mouvement depuis quelques années et j'étais en équipe et j'avais envie de découvrir une facette du mouvement national. Et voilà, donc voilà ma place.
Merci Karine. Laurent.
Moi je suis natif d'Angers et en fait en tant que professeur j'ai été envoyé dans les territoires ruraux, dans des écoles à deux ou trois classes. Donc pour moi ça a été une réalité et j'avais besoin d'être aligné au niveau de ma foi.
Merci Laurent. Antonio.
Alors moi mes parents étaient agriculteurs au Portugal et puis quand ils sont arrivés en France, ils ont changé de métier et j'ai vécu pendant très longtemps dans un petit village de 1600 habitants à côté de Saint-Étienne où j'étais un acteur dans le village pour faire du développement local.
Laurent, peut-être nous rappeler un petit peu quelles sont la mission ou les missions du mouvement chrétien dans le monde rural aujourd'hui.
Alors c'est favoriser le vivre ensemble dans les territoires ruraux par le biais de petites équipes avec qui on chemine, avec des accompagnateurs ou un accompagnateur, et puis mettre aussi en place des temps forts et des événements pour que les gens puissent se retrouver dans cette façon de croire et de prier.
Et donc ces équipes sont réparties par territoire, donc c'est des fédérations si j'ai bien compris, Karine?
Oui, donc sur toute la France, il y a des fédérations et chaque fédération est composée de petites équipes de gens qui se retrouvent.
Antonio, à peu près combien d'adhérents au total on peut compter sur la France pour le mouvement ?
Alors on compte environ 6500 membres sur l'ensemble du territoire national, répartis en une soixantaine de fédérations départementales et environ 700 équipes locales.
Donc effectivement, c'est un mouvement qui compte hein, sur la France et qui pèse et qui est inscrit dans l'Action catholique. Hein, et donc peut-être quelques mots un petit peu pour expliquer un petit peu l'équipe, comment vous fonctionnez, cette nouvelle équipe, puisque bon, deux coprésidents qui viennent là maintenant gouverner le nouveau voilier, c'est ce que j'ai bien compris ce matin hein, dans le contexte. Donc peut-être aussi expliquer comment vous fonctionnez en termes de gouvernance. Il y a une équipe nationale, il y a un conseil d'administration, et puis peut-être nous parler aussi de l'idée des équipes d'accompagnement territorial. Laurent ?
Oui, alors il y a un conseil d'administration de 14 administrateurs qui viennent des différentes fédérations de la France. Et puis nous travaillons avec 4 richesses humaines qui se regroupent sur Paris. Donc nos conseils d'administration ont lieu sur Paris, hein, c'est plus facile au niveau de la mobilité, surtout pour nous au niveau du rural. Et puis le trio, et puis le bureau, on essaye de mettre en place cette gouvernance partagée.
Donc les équipes d'accompagnement territorial, donc ça c'est une émanation, c'est une idée nouvelle, tirée un petit peu de l'expérience du Festival Rural.
Déjà un peu avant le Festival Rural, on s'est rendu compte on se retrouvait en équipe, mais c'était difficile de faire le lien, et donc on a mis en place Aller Vert, et donc le Festival Rural aussi nous a renforcé cette idée des équipes territoriales pour être au plus près des gens dans les fédérations, dans leur équipe.
Très bien, alors justement, puisqu'on parle du Festival Rural, on va revenir un petit peu sur cet événement qui était un magnifique événement. Peut-être simplement vous demander à tour de rôle ce que vous avez envie de retenir aujourd'hui, à froid, de ce Festival Rural. Et puis aussi, ce que ça a un peu révélé en vous, ce temps de partage, ce temps de vie, et ce qui vous a marqué. Et on va commencer par Laurent.
Alors moi, c'est vraiment la bienveillance et l'espérance qui a été vécue pendant ces 3 jours avec 1500 personnes. Et donc, ça fait du bien, ça ressource, et puis ça réactive notre énergie pour pouvoir aller sur nos territoires ruraux.
Et des attentes nouvelles depuis ce Festival Rural, Laurent ?
Alors le CMR, au niveau de cette dynamique, c'est important de savoir, reconnaître qu'il y a des personnes sur le territoire, dans les sociétés et puis les paroisses, des personnes qui sont comme nous et qui nous ressemblent et qui œuvrent pour la même chose, rendre la société plus humaine.
Karine, même question, ce que vous voulez retenir du Festival Rural et puis si ça a révélé pour vous des attentes par rapport au monde rural ?
Alors, pour moi, je retiendrai la joie. La joie, on a vécu 3 jours de joie. Je pense que ça a mis en avant des sujets par rapport à la ruralité, que ça soit en agriculture. Ça a donné une nouvelle dynamique pour notre mouvement.
Merci, Antonio. Ce sera pas la même question, Antonio. Ce sera justement un moment ou un témoignage qui vous a marqué, vous, en tant que grand coordinateur, grand animateur de ce festival.
Il y en aurait beaucoup, hein, mais je crois que ce qui m'a marqué, c'est les visages des différents participants, la joie qu'ils avaient, l'envie d'aller, de tout voir en même temps, d'échanger entre deux, et surtout de se dire qu'on pouvait agir pour changer la société, changer le monde rural, et donc cette volonté, en fait, d'aller plus loin et de continuer à être acteur là où on est. C'est ça un peu qui m'a marqué dans les expressions et le visage des participants.
Merci. Alors aujourd'hui, on est aussi là pour les journées nationales, et en particulier, vous avez tenu ce matin votre assemblée statutaire au niveau du mouvement chrétien dans le monde rural. Et donc, en général, c'est des moments où effectivement, on essaie de partager un petit peu des regards et porter une vision. Et j'aurais envie de vous demander un petit peu quel est le cap. Quel est le cap du voilier que vous souhaitez donner ou maintenir pour ce mouvement, Laurent ?
La présence de l'Action catholique qui peut mettre en place des temps, des événements pour vraiment libérer la parole, pour pouvoir débattre. Ces lieux d'échange sont très importants, surtout avec la perspective des présidentielles 2027.
Alors, puisqu'on parle aussi de fraternité, Karine, j'ai envie de vous poser cette question-là. Les jeunes, Comment peut-on faire pour faire venir les jeunes dans ces mouvements d'action catholique aujourd'hui, puisque c'est la question que tout le monde se pose?
Oui, alors les jeunes se retrouvent peut-être moins souvent en équipe parce qu'ils ont d'autres occupations, mais on s'est rendu compte en faisant des visios pour les 30-50 ans que le nombre de jeunes augmente, que cette façon de faire correspond peut-être, et donc il faut trouver des nouvelles façons de réunir les jeunes.
Et j'oserais poser la question, Laurent, avec votre regard et votre expérience, en quoi les équipes CMR sur les départements, sur les territoires, sont vraiment utiles dans nos territoires ruraux?
On est chrétien dans le monde rural, et je pense qu'il ne faut pas oublier ce mot chrétien. Et pour pouvoir avancer en suivant le Christ, il nous faut nous poser, nous asseoir, pour pouvoir réfléchir et mettre en alignement nos actions avec la lecture de l'Évangile, voir, discerner, agir.
Et alors Antonio, pour être très pratico-pratique, comment on peut rejoindre le CMR aujourd'hui? Un auditeur, il nous écoute, ça lui parle, ça le touche au cœur, ça l'appelle. Comment il peut rejoindre ce mouvement?
Alors, la première chose, c'est de rejoindre les équipes locales, les équipes départementales. On a un site internet, unchrétienruraux.fr. Donc là, on peut trouver aussi les coordonnées pour nous joindre. Mais on invite les auditeurs à aller sur notre site et puis à prendre contact avec les fédérations départementales.
On arrive déjà à la fin. Donc, en général, la fin, je finis toujours par un mot plus personnel de chacun. Un petit peu pour que les auditeurs retiennent bien les choses qu'on souhaite leur faire passer. Et en particulier, justement, chacun, un petit peu, quel message vous souhaitez adresser à nos auditeurs, tout simplement. Et éventuellement, quelle invitation vous auriez envie de leur envoyer?
Alors, de nous rejoindre, moi j'aime bien l'évangile des compagnons d'Emmaüs, car franchement, c'est la mise en mouvement. De quoi parliez-vous sur le chemin? On discerne, on mange ensemble. Et après, on retourne pour dire, il est vraiment vivant.
Merci. Karine ?
Pour moi, le CMR, c'est vraiment un moment où je peux partager avec d'autres sur ce qui me tient à cœur et à la lumière de l'Évangile. Et donc, ça fait du bien dans ma vie d'être en équipe.
Merci. Antonio ?
Pour moi, c'est d'être acteur là où on est dans notre vie quotidienne, acteur dans la société et acteur dans l'Église, pour faire aussi bouger les choses à la lumière de l'Évangile.
Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, vous l'avez bien compris, le rural n'est pas un lieu de repli, mais bien un espace d'avenir. Et donc, le CMR, justement, c'est l'incarnation de cet espace d'avenir. Donc, si on vous a donné envie, osez aller sur le site internet, osez vous renseigner pour aller au contact des équipes en place et vivre une spiritualité qu'est la spiritualité du CMR. En tout cas, merci à vous trois, merci. Pour votre présence et votre invitation, et puis écoutez, à la prochaine fête. Au revoir.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Une chronique verte que vous pouvez retrouver d'ores et déjà sur le site de la radio, radioprésence.com. À suivre dans quelques instants, la chronique littéraire de Frère Martin de l'abbaye de Tournaille. Il nous parlera de La fileuse de verre, juste après Michael Bolbey.
And Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans,
while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high. 'Cause she's got her own obligations, and so, oh, do I. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. So much, it hurts so much inside. And now she'll go her way and I'll go mine. But tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Me and Mrs.
Présence à Foix 100.2.
Et direction Tournaille, dans les Hautes-Pyrénées, plus exactement à l'abbaye de Tournaille, pour la chronique littéraire du frère Martin. Tous les 15 jours, il nous propose sa sélection littéraire, au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour à vous chers auditeurs.
Pour cette chronique, cette nouvelle chronique littéraire, vous êtes venu avec un gâteau d'anniversaire, une bougie sur le gâteau d'anniversaire, parce que ça fait un an que nous avons commencé ces chroniques littéraires.
Et oui, ça fait un an depuis mai 2025. Chaque mois, nous essayons de vous proposer deux lectures pour orienter votre prière et vos connaissances culturelles.
Et je vous remercie de tenir l'engagement. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous dans cette chronique. Alors, cette semaine, vous allez nous présenter La fileuse de verre. C'est un livre de Tracy Chevalier. C'est elle qui avait publié le roman La jeune fille à la perle. Ce roman, il est très connu parce qu'il y a eu une version, ça a été cinéma.
Adapté au cinéma.
Adapté au cinéma, tout à fait. Et donc, pour cela, elle est connue un petit peu partout, on peut dire. Qu'est-ce qu'elle nous propose avec La fileuse de verre ?
Eh bien, elle propose un livre, cette fois, dans un univers qu'elle a pas exploré, puisque ce livre se passe à la fin du 15e siècle à Venise. Et souvent, elle a été plus dans des pays anglo-saxons, vous voyez, ou la Hollande. Et là, du coup, c'est un autre univers. Et c'est ça qui m'est paru intéressant. Et puis, le sujet du livre, où c'est l'itinéraire d'une femme qui vit, vous voyez, à la fin du 15e siècle, dans un milieu très cadré et qui va essayer de bousculer les cadres pour s'exprimer.
Qu'est-ce que vous voulez dire par un milieu très cadré ? Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, La fileuse de verre, donc vous voyez, on est plongé dans les gens des métiers d'art de l'île de Murano, dans les îles de Venise.
Donc déjà, on est sur une île. Voilà. On est dans un contexte avec des artistes. Donc déjà, ça sera un cadre compliqué.
Dans cette île, il n'y a que les fabricants de verre.
Ah oui.
Et donc, du coup, ce n'est que... Vous allez voir dans le livre, c'est impressionnant, c'est très hiérarchisé, de celui qui est un peu aide, qui peut faire quelque chose, celui qui peut créer. Et donc, du coup, elle va voir ça, et puis elle entend qu'elle a une possibilité en elle. Et il y a une autre dame qui avait essayé de faire des perles et qui va lui enseigner, parce qu'elle sent qu'en elle, il y a un potentiel. Et donc, du coup, voilà, elle va...
Elle veut exister, elle veut prendre sa place dans cet univers.
Oui, mais parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose en elle, quoi.
Et alors, comment on est conduit dans ce roman, comment l'écriture nous accompagne dans l'évolution de cette soif de liberté.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un récit linéaire. Il y a une histoire là qui commence. Il y a quelqu'un qui jette des cailloux là. Donc, on a des flashs sur la vie de cette personne. Donc, je trouve que ça rend le déroulé du livre vivant. Et donc, on suit un peu son histoire à divers moments de sa vie. Et voilà, donc on rentre dans la vie de Venise, c'est les marchands vénitiens, qu'est-ce que c'est que travailler dans un atelier de verrerie, qui fait quoi, qui crée, la place très importante des marchands qui sont à Venise. Il n'y a pas que des vénitiens, il y a justement eux, ils sont avec un marchand allemand, c'est très intéressant d'entendre ce qui se passe là, le milieu des gondoliers, parce qu'ils sont sur une île, ben pour aller là-bas, il faut trouver quelqu'un pour vous transporter et tout ça. Et puis on passe aussi le très grand épisode de la peste de Venise, quoi, qui a... était une énorme catastrophe où justement même...
Et donc c'est la vie de cette jeune femme, mais dans un contexte à la fois historique, géographique, culturel. Voilà. Ça nous emmène aussi dans cette histoire-là de ce pays-là.
Et de quelques femmes qui se battent et qui savent exploiter un talent artistique et voir le temps, ce qui est intéressant, c'est le mécanisme pour que son talent artistique soit reconnu.
Et ça, c'est... Ça, il c'est le sera bien.
Ah ben évidemment, oui. Il l'est parce que c'est elle qui fabrique les fameux, les perles qui vont donner les colliers en perles de Venise qui sont portés par les plus grandes.
C'est quoi la morale de la fileuse de verre? Est-ce qu'il y a une morale à retenir?
Je ne sais pas si c'est une morale, mais c'est regarder, croire à vos rêves, comme on dit souvent, croire à votre engagement et se battre jusqu'au bout pour les qualités qu'on a et les explorer. Et s'il y a des difficultés, voilà. Traverser ces difficultés, et voyez, ça c'est un peu ce que nous a dit la tradition spirituelle. Il y a une difficulté, il y a un passage, mais le passage nous amène vers la lumière. Et dans ce temps pascal, on est vraiment à l'unisson de ce qu'on a envie de vivre. Et c'est les femmes, j'ai aussi trouvé intéressant, c'est les femmes qui ont annoncé la résurrection. Et là, on va suivre l'itinéraire d'une femme.
La fileuse de verre de Tracy Chevalier, c'est paru aux éditions Folio, 536 pages. Prix du livre, 10 euros, disponible à la librairie de l'abbaye de Tournai. C'est un livre, on ne l'a pas dit, mais c'est un livre pour tout public.
Ah, oui, tout public, voilà. Tout à fait.
Merci beaucoup, frère Martin.
Merci à vous et bonne lecture et bonne exploration de ce nouveau milieu.
À bientôt pour une nouvelle chronique.
Eh bien voilà, une belle idée de rester sur le canapé au coin du feu parce qu'il fait froid et il y a eu de la neige qui est tombée sur les sommets pyrénéens et pas si haut que ça, à 1300 mètres. C'était déjà saupoudré de blanc ce matin. Donc l'occasion pour nous de lire un petit peu avec Diana Krall, I'm Just Lucky.
Gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree all sing so merrily. They sing wherever I go. I guess I'm just a lucky so-and-so. Well, if you should ask me the amount in my bank account, I must confess that I'm slipping. But that don't bother me, 'cause confidentially I've got a dream that's a pippin. And when my day is through, each night I hurry to a love that's faithful, I know.
Diana Krall sur Présence. I'm just lucky.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
À 12h32 minutes, à la pendule de Présence, en plein cœur de ce Présence Midi, eh bien, à suivre, un auteur qui a arpenté les sentiers de nos belles Pyrénées, ce sera Henri Russell aux alentours de 12h50. Mais dans l'immédiat, je vous propose de poursuivre ce programme avec la chronique Solidairement Vôtre, une chronique qui nous est proposée tous les vendredis par Anne Deslois.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous solidaire. Aujourd'hui, nous parlons de conférences proposées prochainement à Lourdes par la Cité Saint-Pierre et le Centre de l'Assomption. Pour en parler, mon invité est le père Jean-François Penouette, qui est aumônier de la Cité Saint-Pierre. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors j'ai dit que c'est une série de conférences, en fait c'est deux conférences, que vous faites en partenariat avec le Centre de l'Assomption. Alors, comment est née cette proposition entre Cité Saint-Pierre et Centre de l'Assomption à Lourdes ?
Eh bien, nous nous fréquentons depuis quelque temps avec le Centre Assomption et nous suivons bien sûr l'évolution de ce centre et sa réflexion avec Damien Aviron-Violet en particulier sur une évolution possible vers un éco-centre. Et nous, nous sommes aussi branchés quand même avec notre directeur Guillaume Monneil sur toutes les questions d'écologie. On s'est dit, ça peut être intéressant de réaliser des choses ensemble. Alors, depuis un moment, nous avions déjà mis sur pied une semaine Laudato aussi, depuis ça fait faire la troisième cette année et nous nous étions dit que nous pourrions avec l'Assomption et puis peut-être aussi le village des jeunes faire quelque chose en commun. Nous, Cité Saint-Pierre, porterions plutôt la semaine Laudato aussi au printemps et l'Assomption donc plutôt le mois de la création. Alors ça veut dire que tout ne se fait pas au même endroit mais que c'est coordonné.
Voilà, c'est bien. Alors, justement, pour cette proposition de fin mai, c'est deux conférences sur le thème « Quel avenir pour l'agriculture ?» et la deuxième « Dieu, les hommes, les animaux et les animaux dans la Bible ». Et ces conférences, elles seront données par le père Arnaud Favard. Qui est le père Arnaud Favard ?
Arnaud Favard est un prêtre de la Mission de France, comme moi donc, de ma génération, qui est actuellement en Gironde, et qui est aussi le coordinateur de la mission rurale auprès de la Conférence des évêques. Donc nous travaillons beaucoup ensemble, en particulier avec Benoît Guillard ici, qui est plus connu encore, pour toutes les questions agricoles et rurales en particulier. Sa spécialité, si je puis dire, c'est une attention et puis un engagement dans le monde rural et en particulier auprès du monde agricole qui traverse quand même de grandes difficultés dans toutes les catégories d'agriculture d'ailleurs.
Alors je pense que ça va être un intervenant bien sûr qui est apprécié pour sa capacité à relier à la fois la spiritualité et les questions très concrètes.
Voilà, tout à fait. Alors la conférence du lundi 25 mai à 20h45, c'est « Quel avenir pour l'agriculture ?» Arnaud parlera à partir de trois axes, disons, une présentation de la diversité de l'agriculture aujourd'hui en France et de sa situation dans le contexte mondial, hein, puisque nous sommes dans un contexte mondial. Le deuxième point sera la relation en particulier, comment nous sommes concernés, nous tous, par ces questions et en particulier par nos choix que nous faisons dans l'alimentation, entre autres. Et le troisième point, ce sera de montrer que l'agriculture, elle est en relation avec un territoire rural où il n'y a pas que des agriculteurs.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement quel est un peu l'éclairage particulier qu'une approche chrétienne apporte sur ces thèmes-là, sur l'actualité et le devenir de l'agriculture et des territoires?
Oui. Alors, nous n'avons pas de lumière extraordinaire, ça se saurait s'il y avait des solutions pour les difficultés que traverse le monde agricole. Par contre, je crois que nous avons une attention particulière à porter, comme nous la portons dans ce diocèse, ici d'ailleurs, en particulier auprès des agriculteurs qui sont les plus en difficulté, par suite de difficultés financières, des aléas du climat, des problèmes de sens, un peu du travail aussi, puisque des agriculteurs sont amenés à se suicider dans nos régions, et c'est quand même dramatique. La deuxième chose, je crois, c'est que il y a des clivages, vous le savez bien, dans le monde agricole, dans le monde syndical, dans le monde professionnel, et que l'Église est sans doute un facteur qui peut favoriser aussi le dialogue et l'écoute entre des gens qui ont des sensibilités et des engagements différents dans le monde agricole et dans le monde rural.
Alors, merci. Donc, cette première conférence, ça sera donc le lundi 25 mai à 20h45 au Centre de l'Assomption. La deuxième conférence parle, donc le titre, c'est « Dieu, les hommes, les animaux dans la Bible ». Est-ce qu'on peut imaginer que cette conférence du père Arnaud Favard permettra justement de découvrir comment les textes bibliques peuvent nourrir notre regard sur les animaux et notre manière d'habiter le monde? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous pensez?
Oui, c'est tout à fait ça l'intention. Même s'il y a un effet d'accroche un peu dans le titre, ce sera donc une conférence plus biblique, disons, où il y aura un apport, mais aussi évidemment un échange avec l'intervenant. À travers ce titre, nous avons voulu mettre en avant que l'homme se situe dans la création tout entière, et que effectivement notre rapport aux animaux, entre autres, mais aussi à la terre, concerne aussi la foi. Nous sommes pris dans un ensemble, comme l'encyclique Laudato Si du pape François l'avait si bien souligné: clameur de la terre, clameur des pauvres, et que notre rapport à Dieu est aussi impacté, j'allais dire, par cette façon de nous rapporter aux éléments de la création.
Mais c'est ce qu'on veut comprendre, je pense, quand on dit que l'Église parle aujourd'hui de l'écologie intégrale.
Tout à fait.
Ça a bien toutes ces dimensions-là, quoi. Mmh. Alors, je pense que nos auditeurs l'ont bien compris, ce ne sont pas des conférences pour des spécialistes.
Non.
C'est vraiment des conférences ouvertes à tout public.
Absolument.
Qu'est-ce que vous souhaitez, justement, quel message doit passer auprès des gens qui viendront à ces conférences pour peut-être avoir une autre façon de faire des choix au niveau alimentaire, au niveau de notre relation aux autres? Qu'est-ce que vous attendez comme fruit de ces conférences?
Eh bien, souvent on pense que, entre autres, l'écologie, soit c'est un truc politique, pour ne pas dire idéologique, et qu'on n'y peut pas grand-chose, on a à subir. Eh bien, c'est toute la semaine, nous, que nous faisons des initiatives à la cité Saint-Pierre, entre autres, pour arriver à se nourrir autrement, pour arriver à faire des produits d'entretien par nous-mêmes, parce que, vous le savez, à la cité Saint-Pierre, on accueille des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, et donc montrer que, même si on n'a pas beaucoup de ressources, on peut aussi vivre sainement. On peut soi-même faire des choses au lieu de toujours acheter et toujours consommer plus.
Oui, donc c'est vraiment rendre le consommateur acteur.
Exactement.
Acteur de sa vie. Mmh. Alors, revenons à des choses très pratiques maintenant au sujet de ces deux conférences. Rappelons le titre. Quel avenir pour l'agriculture? Ça sera le lundi 25 mai à 20h45 au centre Assomption à Lourdes. Et le lendemain, Dieu, les hommes et les animaux dans la Bible, donc le mardi 26 mai à 20h45 à la cité Saint-Pierre. Faut-il s'inscrire, Père Jean-François, pour participer?
Absolument
à ces...
pas. Non. Absolument pas. L'accès est totalement libre et gratuit. On vient comme on est, on n'a pas besoin d'être spécialiste, ni en agriculture, ni en théologie, ni en Bible. Tout le monde est bienvenu.
Avant de conclure notre émission, peut-être un dernier mot, Père Jean-François, pour donner envie à nos auditeurs d'y venir?
Eh bien, c'est que tout le monde, vous comme moi, nous sommes concernés par ces questions-là. Et au lieu d'être uniquement soit dans le regret et la nostalgie de ce qui était autrefois, ou bien les récriminations après telle ou telle catégorie, ou bien les slogans tout faits, essayons d'approfondir et de mieux comprendre et de mieux dialoguer.
Merci Père Jean-François d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis on va inviter l'ensemble de nos auditeurs à venir à Lourdes pour ces conférences du Père Arnaud Favard, donc fin mai, le 25 et le 26 mai à 20h45. Bonne continuation, à bientôt.
Merci.
Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto voy para Mayarín.
Bigorre, 88.9.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, Voyager, rêver, vibrer, admirer, aujourd'hui avec Henri Russel. Henri Russel, personnalité éminente du pyrénéisme, est né à Toulouse d'un père irlandais et d'une mère gasconne qui lui a fait découvrir dès l'âge de 6 ans les sentiers des Pyrénées. À partir de 22 ans, il voyage à travers le monde, d'abord quelques mois aux Amériques, puis pendant 3 ans en Asie et en Océanie. Sa passion pour la montagne s'affirme et dès son retour à Bagnères-de-Bigorre, il se lance dans une impressionnante série d'ascensions qui ne prendra fin que 40 ans plus tard. Il vit désormais de sa fortune personnelle et va se consacrer exclusivement à ses chères Pyrénées. Infatigable marcheur, il explore toute la chaîne, de l'Ossau au Canigou, du Mont Perdu à l'Aneto, et réalise de nombreuses premières. Pendant le bel automne de 1890, je fis souvent de longues et solitaires promenades près des petits glaciers et des bois du Paya. Mais ce ne furent que rêveries. Tout s'y prête en ces lieux enchantés et fleuris, où la nature a fait un parc mystique. Là, ondulent, en montant vers les glaces éternelles, des collines vertes, pastorales et gracieuses, non pas couvertes, mais mouchetées de jeunes sapins pyramidaux, qui s'y dressent comme des îles silencieuses de verdure, laissant apercevoir entre elles les neiges brillantes du cirque de Gavarnie et ses terrasses plus blanches que l'ivoire ou de l'albâtre, tandis qu'en bas, ces précipices bleuâtres descendent verticalement dans l'ombre, comme des murailles d'airain ou de cobalt. On voit même ces blancheurs à travers le feuillage des sapins. À l'ouest de ces collines, sur le versant du cirque, la forêt change d'aspect. Elle devient vénérable et sérieuse, et des sapins superbes, hauts de 20 à 30 mètres, prêts à mourir, penchés vers l'abîme, rappellent la majesté des forêts vierges et décharnées de l'Amérique du Nord. Un jour, le 8 septembre, je vis tout cela sous un soleil d'Afrique et sans un nuage. Sur les montueux déserts du Puy-Méné, des milliers de moutons agitaient leurs clochettes et les bergers, heureux comme des enfants, chantaient de tout leur cœur, tandis qu'à l'ouest, où le Gave écumait au soleil à d'énormes profondeurs, de petites brises innocentes, spasmodiques et nomades, m'apportaient ses sanglots. Souvent, sa voix enflait au passage d'une rafale, et ses sonorités subites, mélancoliques et graves, me rappelaient la chute et l'écrasement des vagues sur les rivages et les rochers mousseux d'une mer lointaine. Que de souvenirs me revenaient alors! Mon cœur faisait le tour du monde. Jusqu'à 4 heures, la plus intense lumière régnait partout, et tout était habillé d'or. Mais bientôt, l'ombre engloutit Gavarnie et monta rapidement jusqu'à moi. Il n'y avait plus une créature humaine en vue, ni homme, ni femme, et cependant, toute la nature parlait d'amour, de poésie et de roman. Je subissais, comme à 20 ans, les influences attendrissantes du soir et de l'automne, et les petits sapins me serraient affectueusement autour de moi, comme s'ils avaient peur de la nuit, me semblaient doués de vie et de même sensibilité, malgré leur immobilité, leur deuil et leur mutisme. Il est souvent bien difficile de croire que la nature est morte et ne sent rien. La mort ne se fait pas aimer. À cette heure, il faisait déjà sombre et le vent était tombé. On n'entendait plus rien et la désolation se répandit sur ma colline et ses sapins. Mais au-dessus de leur noire et funèbre pyramide, le marbré, semblable à un Olympe de neige, de marbre et de rubis, et plus rouge qu'un volcan irrité, luttait encore avec la nuit et ne voulait pas s'éteindre et perçait les ténèbres comme une flamme immortelle. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Henri Russel. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées » inspirant tous mes récits.
Des récits qui nous sont proposés toutes les semaines par Catherine Albrecht, que je remercie pour son dévouement au sein de notre radio. C'est ainsi que s'achève ce Présence Midi que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Il est 12h passées de 52 minutes. Excellent appétit. Si vous êtes à table, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de nos programmes au cours desquels vous allez pouvoir vous recueillir puisque rares sont les radios qui vous proposent ce moment de méditation et de prière sur leur antenne. Eh bien, chez nous, c'est à 15h30 avec la méditation du chapelet en direct de la grotte du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Un chapelet médité pour toutes vos intentions. À toutes et à tous, très très belle journée. Je vous laisse en compagnie de Claude Nougaro.
Ce sera un garçon. Et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi 6 mois. On est nés à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu. Jouant mon cœur à fin soupir, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées, et puis des idées. Tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai que jamais, que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Présence dans la cité mariale 96.
Take my eyes off of you. Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape plaide pour un engagement collectif pour mettre fin aux crimes liés à la drogue. Léon XIV recevait ce matin les participants à la deuxième conférence.